Radio Okapi. Le journal, présenté par Grace Hamzati.
À la une de l'actualité, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, salue l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2746 qui l'autorise à fournir un soutien opérationnel et logistique à la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. En politique, le parti présidentiel UDPS et Mosaïque participent à l'élection du bureau définitif du Sénat en ordre dispersé. C'est ainsi que le sénateur Topin Kabongo, membre de cette famille politique, appelle à l'unité pour maximiser la chance de réussite à cette élection. Du côté de l'opposition, Prince Epengue, cadre de la plateforme Elamouka, affirme que le parti présidentiel se transforme en un parti des désordres. L'invité du journal est l'administratrice chargée des luttes contre la malnutrition à l'UNICEF. Docteur Annie Mitelezi nous parle de l'importance du lait maternel chez les enfants à l'occasion de la semaine de l'allaitement maternel clôturée ce mercredi. À toutes et à tous, bonjour. Notez tout d'abord que la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO exhorte les gouvernements du Rwanda et de la RDC au respect de l'accord de cesser le feu signé à Luanda, en Angola. Elle en appelle à la solidarité des partenaires internationaux afin qu'ils appuient effectivement à cette feuille de route. C'est ce qu'indique le communiqué des prélats catholiques congolais publié ce mercredi. Blaise Makasi a lu ces documents et nous propose ses résumés.
Dans ce communiqué, la CENCO rappelle l'impérieuse nécessité de permettre à toutes ces femmes, tous ces enfants et tous ces hommes, déplacés par la force de l'insécurité récurrente, de vivre dignement en paix et dans leur terroir. Elle en appelle à la solidarité des partenaires internationaux afin qu'ils appuient effectivement cette feuille de route. Pour les prélats catholiques, les initiatives observées ces derniers temps, précisément les trêves humanitaires et l'accord de cessez-le-feu signé à Luanda, entre le Rwanda et la RDC, attestent que l'opposition des parties prenantes au conflit et des partenaires internationaux de la RDC ont légèrement évolué dans le sens de mettre fin à la banalisation de la vie en RDC et au calvaire que subissent les communautés congolaises affectées par ces conflits depuis un peu plus de 3 décennies. Tout en félicitant les uns les autres pour cette petite avancée, la CENCO se souvient qu'il ne s'agit pas d'un premier accord signé entre le gouvernement du Rwanda et de la RDC. Tous les précédents accords avaient été brillamment violés et les différents rapports y afférents n'avaient pas donné lieu aux sanctions.
Merci à vous, Blaise Makasi, pour toutes ces précisions. Nous le disions tantôt, dans un communiqué de presse publié ce mercredi 7 août, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO exprime sa satisfaction sur l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2746. Cette résolution qui autorise les soutiens renforcés de la MONUSCO aux opérations de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo SAMI RDC. Elle constitue une marque d'engagement de la communauté internationale en soutien aux efforts de sécurité et de stabilisation en RDC. D'autres détails avec vous, Jude Mister Bilanda.
En vertu de cette résolution, la MONUSCO est mandatée pour apporter une assistance à la SAMI RDC, notamment à travers une coordination améliorée, un partage d'informations et un soutien technique et logistique dans le but de renforcer les capacités de la SAMI RDC tout en assurant le respect des normes internationales en matière des droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme, dit ce communiqué. Par ailleurs, le soutien de la MONUSCO à la SAMI RDC devra se faire sans préjudice du mandat existant de la MONUSCO, y compris la protection des civils, les soutiens au processus de Luanda et au mécanisme de vérification ad hoc renforcé et les soutiens aux forces de sécurité nationales. Les communiqués ajoutent que dans ces contextes, la mission se tient prête à soutenir les mécanismes civilo-militaires et de protection des droits humains et du droit international humanitaire que la SAMI RDC a mis en place pour éviter les pertes civiles. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef par intérim de la MONUSCO, M. Bruno Lemarquis, réaffirme la disponibilité de la MONUSCO à travailler avec tous les partenaires pour atteindre les objectifs de paix, de sécurité et de protection des civils en RDC. Dans ce contexte, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 4 août, il appelle toutes les parties prenantes au respect de leurs engagements pour donner une chance au processus politique porté par l'Angola, conclut ce communiqué.
Jude Bilanda. Entre-temps, le coordonnateur humanitaire résident du système des Nations Unies en RDC et chef ad intérim de la MONUSCO séjourne à Lubumbashi depuis ce mercredi. Avant de se rendre à Kolwezi dans le Lualaba, Bruno Lemarquis va mener plusieurs activités. Mais déjà, il affirme que le Haut-Katanga et le Lualaba sont des provinces calmes qui n'ont pas trop de besoins humanitaires. On écoute Bruno Le Marquis au micro de Jean Gando.
Bon, c'est ma première visite ici dans le Haut-Katanga et puis on va aussi aller au Walaba, donc c'est une petite bouche et des grandes oreilles. C'est surtout pour apprendre, écouter, comprendre les réalités de ces provinces dans lesquelles je n'ai pas encore visité, rencontrer les collègues des Nations Unies, rencontrer les autorités. Et puis je pense qu'on fera un petit débriefing à la presse à la fin de la mission.
Et sur le plan humanitaire, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ?
Alors je pense pas que... Bon, les collègues vont me renseigner, mais je pense pas qu'il y ait trop de besoins humanitaires dans la province. Ce sont des provinces assez calmes, des grands besoins humanitaires sur lesquels on se concentre. Heureusement d'ailleurs, les besoins humanitaires sur lesquels on se concentre, c'est vraiment dans les provinces de l'Est, le Maïdombé. Mais au Katanga, Lualaba, c'est surtout les potentialités de développement sur lesquelles il faut travailler.
Parlons politique. L'UDPS et Mosaïque participent à l'élection du bureau définitif du Sénat en ordre dispersé. Deux candidats, Jonas Munkamba et Idrissa Afani, vont se partager les voix des sénateurs de l'UDPS, ce qui risque de jouer en faveur de Samalou Kondé, aussi candidat au poste du président. Pour maximiser la chance de réussite de l'UDPS et Mosaïque, le sénateur Topin Kabongo, candidat questeur qui bénéficie du soutien d'Augustin Kabuya, appelle à l'unité afin de permettre à cette famille politique de conquérir le pouvoir au sein du Sénat. Topin Kabongo est au micro de Michel Kifindangoy.
Si nous avons décidé de prendre cette institution, c'est pour bannir certaines habitudes. Nous voudrions que l'image de notre institution soit redorée. Ce que je vous demande, dose à la provoquant. Pour l'instant, notre objectif, c'est d'abord prendre le bureau du Sénat. Si nous avons des problèmes entre nous, ça doit se traiter entre nous. C'est Banguna Bakote Labisso. Parce qu'il y en a qui profitent de tout ça. Restons d'abord unis, main dans la main. Si nous avons des problèmes entre nous, même sous un arbre, nous allons nous asseoir et nous allons les entendre.
Prenons cette réaction de la Mouka, plateforme politique de l'opposition, par rapport au comportement des militants de l'UDPS mardi au Palais du Peuple. Pour Prince Epengue, le parti présidentiel se transforme en un parti des désordres. Ces cadres de la Mouka exigent l'évaluation des dégâts et des explications. Prince Epengue, dans ses propos recueillis par Guy Maté.
Depuis un certain temps, les militants de l'UDPS se comportaient en hors la loi. Ils envahissent les rues de tous les pays en terrorisant les populations et ça en a visé les autorités. Ils ont fait irruption ce mardi au Parlement, un site pourtant inviolable, accassant tout à leur passage, portes, fenêtres, vitres et d'immobilier de luxe acheté avec l'argent de tous les Congolais. L'union pour la démocratie se transforme en union pour les désordres au pays. La Mouka exige l'évaluation rapide des dégâts et en envoyer la facture à M. Félix Tshisekedi. L'IDPS est un fait privé. Ces querelles intestines ne sauraient paralyser les institutions dans un contexte de guerre d'agression. La Mouka, à chaque manifestation, est réprimée ou est empêchée par la police. Et pourtant, les autorités de la police et celles de la ville laissent la carte blanche et la liberté à la milice et force du progrès de manifester quand elle veut, où elle veut et si elle veut en violation des lois du pays. Nous exigeons des explications.
Justice à présent, le Conseil supérieur de la magistrature rappelle aux magistrats l'importance de leur rôle et la nécessité d'une conduite exemplaire. C'est dans ce sens que le président du Conseil et président de la Cour constitutionnelle a initié hier des échanges d'abord avec des hauts magistrats du Conseil d'État puis ceux de la Cour de cassation. Selon Dieudonné Kamouleta, l'objectif poursuivi est de renforcer les liens entre les magistrats et les préparer à faire face aux défis juridiques, mais aussi consolider l'esprit des corps au sein de la magistrature pour une bonne administration de la justice. On écoute le président du Conseil supérieur de la magistrature dans cet extrait choisi par Jeff Ngaï.
Juste m'entretenir avec les collègues pour redynamiser l'esprit de corps et rester encore les rangs pour que nous puissions tous faire front aux défis qui sont les nôtres afin que l'état de droit puisse ne pas être un slogan mais réellement une réalité pour la nation congolaise. Ce sont des hautes juridictions, c'est d'ici d'en haut que l'impulsion doit descendre afin que les magistrats puissent savoir que le temps de la distraction est passé et que tous nous devons regarder de l'avant, être exemplaires et être esclaves.
Merci d'écouter Radio Kapi à Kananga, au Kasai Central, où les travaux de lutte anti-érosive lancés par le chef de l'État sont suspendus depuis le mois de mai. Ils s'exécutaient dans le cadre du projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga-Purik, financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale à travers le ministère de l'Urbanisme. Dans la foulée, le député national Jerry Moulamba s'inquiète et alerte sur la situation des agents recrutés pour ces travaux qui n'ont jamais été payés. François Kadima nous en parle.
C'est en juin 2023 que le chef de l'État a donné les go de ses travaux à Kananga en présence de la vice-présidente de la Banque mondiale et quelques membres du gouvernement passé. Près d'une année après, le projet est à l'arrêt pour mauvaise gestion de l'équipe de coordination après l'audit des experts de la Banque mondiale. Cela a même occasionné la suspension du coordonnateur du projet. Entre-temps, le député national Jerry Moulamba révèle dans une lettre ouverte que les agents affectés à ce travaux et les prestataires n'ont pas été payés.
Ces travailleurs, leur compte demeure non approvisionné jusqu'à ce jour. Ils sont au total 1135. Nous déplorons toutes ces manœuvres orchestrées par des ennemis qui ne veulent pas la lutte anti-érosive.
L'un des agents approchés les confirme, soulignant que certains ont même vu la rémunération coupée sans explication.
Une personne qui a travaillé soit 24 jours, on lui paye 2 jours, 3 jours. Il y a d'autres qui ont même 3 mois d'impayement, même les fournisseurs aussi.
À la Banque mondiale, nous rapporte qu'après la suspension du coordonnateur du projet Purik, plus rien ne pouvait se faire. Les travaux pourront reprendre avec de nouveaux coordonnateurs. Et la situation des agents et fournisseurs sera régularisé. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Direction la province du Maniema pour parler de cette situation confuse qui s'observe entre les professionnels et administratifs de santé et leur banque payeuse Tembe. Pour cause, depuis le début de la paie des salaires de juillet, il y a de cela 2 semaines, plusieurs personnes ne sont pas payées. Après avoir épuisé toutes les démarches, ces professionnels et administratifs de santé demandent l'implication des autorités congolaises afin de prendre des dispositions d'ici 72 heures, sinon la masse ouvrière va se prendre en charge. Le coordonnateur du syndicat des professionnels et administratifs de santé, Cyprien Kibondo, explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes devant une situation anormale et scandalisante. Depuis que la paie du mois de juillet a commencé, il y a un bon nombre de nos syndiqués qui ne sont pas payés. Je peux dire des milliers de personnes ne sont pas encore payées. On ne comprend pas la situation. Et ça fait 2 semaines que la paie a commencé. Les gens passent à la banque. La banque dit que les comptes ne sont pas crédités. Et on n'a pas compris. Nous avons attendu les listings. Après qu'on ait eu les listings, nous avons vérifié les noms de nos syndiqués se retrouvent bel et bien sur listing avec les montants précis pour qu'ils soient payés. Mais malheureusement, quand ils arrivent à la banque dit que les comptes ne sont pas crédités, il n'y a pas l'argent pour payer ces gens. Nous sommes allés à la BCC, là où il y a la commission de suivi des paies au niveau de la province. La BCC n'a pas cette information, madame. Et puis, ça nous laisse vraiment indésirés. Les gens ne sont pas payés et puis la rentrée scolaire s'annonce déjà d'ici là. Nous sommes revenus pour aller remonter l'information au niveau de l'OD, au niveau de la province. L'OD n'a pas aussi cette information de manière officielle. On comprend plus les jeux qui se passent au niveau de la TMB. Maintenant, de quels critères la banque s'est servie pour payer une partie et une partie qui reste impayée?
Nous n'avons pas encore réussi à joindre le responsable de la TMB à ce sujet.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la presse est en danger, affirment les représentants du secteur. On évoquait il y a quelques jours la disparition des kiosques des 2 principaux quotidiens sportifs du pays. La CAP, la coordination des associations de presse, tire la sonnette d'alarme dans un communiqué et appelle les autorités à réagir. Aux Comores, un décret signé le 6 août dernier suscite une vive controverse. Il réorganise les attributions du secrétaire général du gouvernement, poste désormais occupé par Nour El Fat Azali, fils du président Azali Assoumani. Ce décret fait de lui une figure clé, lui conférant le pouvoir d'évaluer les ministères et sociétés d'État et de présider toutes cellules de gestion des crises sous la tutelle directe du président de la République. L'opinion publique craint une concentration excessive des pouvoirs, accusation que le gouvernement rejette fermement.
L'invité.
La semaine de l'allaitement maternel qui a débuté le 1er août s'est clôturée ce mercredi. Instaurée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette semaine marque l'importance du lait maternel chez les enfants. Chaque femme est appelée à allaiter pour permettre à son enfant de bien grandir. Pour en parler, nous recevons l'administratrice chargée des luttes contre la malnutrition à l'UNICEF. Docteur Annie Mitelesi s'entretient avec Plamedi Mbiyavanga.
Bonjour Madame Annie Mitelesi.
Bonjour Madame la journaliste.
Alors, madame, nous sommes pendant la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Est-il important d'allaiter son enfant?
Effectivement, c'est très important d'allaiter son enfant. L'allaitement comporte beaucoup d'avantages, aussi bien pour l'enfant, pour la mère, pour la famille et pour toute la société. Il est recommandé que l'enfant soit allaité jusqu'à 2 ans ou plus. Mais avant les 2 ans ou plus, l'enfant doit être mis au sein dans l'art qui suit l'accouchement. Pendant que la maman accouche, on doit faire tout pour qu'elle lui donne le premier lait, pour bénéficier du premier lait que jaunâtre qu'on appelle le colostrum, qui contient beaucoup d'anticorps qui vont protéger l'enfant. Mais lorsque la maman rentre à la maison avec l'enfant, l'enfant doit être allaité exclusivement au sein, sans eau ni autre aliment, jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus. Il faut donner autre chose. Il faut ajouter autre chose au lait maternel, raison pour laquelle on dit que l'enfant doit continuer son allaitement, à être allaité jusqu'à 2 ans.
Alors, Madame Annie, il y a d'autres enfants déjà à partir de 4 mois qui refusent de prendre du lait maternel. Que faire dans ces cas-là?
Il faudrait essayer de faire une évaluation pour voir pourquoi cet enfant refuse d'être allaité. Peut-être sa maman ne produit pas suffisamment de lait, peut-être sa maman n'arrive pas bien les positionner. Et l'enfant, comme c'est un être humain, et donc le mécanisme pour dire il ne reçoit pas ce qu'il devait s'attendre, et donc peut-être sa colère, il va essayer de le manifester sous forme de refus. Et donc raison pour laquelle nous devons essayer d'accompagner, bien investiguer pour voir est-ce que la maman positionne correctement son enfant, parce qu'il faut avoir suffisamment de lait, l'enfant doit être bien positionné, mais elle-même, la maman, doit aussi avoir une position confortable.
Alors, par rapport aux femmes qui ne produisent pas du lait maternel, mais qui viennent de concevoir chez elles à la maison, comment faire dans ce genre de cas?
D'abord, la femme allaitante a droit à bien se nourrir. Donc, il est recommandé à une femme qui est allaitante, elle doit manger au moins 2 repas supplémentaires. En plus de qu'elle mangeait avant qu'elle ne tombe enceinte, elle doit ajouter 2 repas supplémentaires. Elle doit d'abord bien se nourrir. Peut-être elle ne positionne pas si bien l'enfant pour que l'enfant puisse bien prendre le lait. Ce qu'elle va essayer de faire, la femme doit s'assurer que cette partie noirâtre est également dans la bouche de l'enfant. C'est là où il y a les canaux galactophores. Ça va permettre le lait de venir.
Alors, Madame Annie, vous venez de dire par rapport aux aliments nutritifs que la maman doit prendre. Alors, c'est quel genre d'aliments que la maman doit prendre pendant l'allaitement?
La femme qui allaite doit tout prendre. Elle mange tout. Il n'y a pas de restriction, mais seulement on doit tout faire pour qu'elle mange de façon équilibrée. Elle doit manger une alimentation adéquate. Une alimentation adéquate comportant les différents groupes d'aliments. Elle doit manger les aliments de groupe de céréales. Elle doit manger les groupes de légumineuses. Elle va manger les légumes et les fruits riches en vitamine A. Elle doit manger les produits contenant les protéines, les viandes et les poissons. Mais seulement le principe est que cette femme doit manger au moins 2 repas supplémentaires.
Quel message vous pouvez donner à l'occasion de la semaine du lait maternel?
Ouais. Pendant cette semaine, pour 2024, le thème est que nous devons réduire les inégalités et tous nous devons soutenir l'allaitement. L'allaitement est l'affaire de tous, y compris l'homme, les gardiens d'enfants, les belles-mères, les membres de la communauté. Nous devons tous soutenir cette femme qui allait. Et donc, pour permettre à l'enfant d'avoir un bon départ, parce que c'est l'aliment idéal, ça permettra aussi de réduire les maladies, ça permettra de l'enfant de mieux accroître de façon harmonieuse. Et donc, nous recommandons à nous tous, que ce soit les maris, les grands-mères, soutenons les femmes qui allaitent à allaiter de façon exclusive leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 mois, mais également de continuer l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans.
Merci beaucoup, docteur Annie.
C'est à moi de vous remercier.
Notre invitée, l'administratrice chargée des luttes contre la malnutrition à l'UNICEF, Dr Annie Mitelesi, était interrogée par Plamedi Mbiavanga. Ainsi s'achève ces radiojournales coordonnées par Jude Mister Bilandan Kumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Grâce à Mzati Massan, c'était la présentation. Vous avez la possibilité de retrouver ce journal sur www.radiocapi.net. Merci.